4h en temps universel, 6h ici à Paris. Vous êtes toujours sur Radio France Internationale. Un nouveau journal gay est en plein air. Bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
C'est les bourses mondiales qui continuent de s'affoler.
Et ça risque de ne pas s'arranger. Les droits de douane imposés par Donald Trump entrent en vigueur aujourd'hui. La Chine réplique, le Royaume-Uni limite les dégâts, le Cambodge redoute des conséquences catastrophiques, le secteur du cacao ivoirien aussi. On y revient largement dans ce journal. Au menu également le plan blanc déclenché sur l'île de la Réunion où l'épidémie de chikungunya progresse. On sera en Australie où les fumeurs vont avoir de la lecture, pas forcément très agréable, des messages de prévention directement imprimés. Primé sur les cigarettes. Et puis Mariam perd Amadou et le monde de la musique aussi. Amadou Bagayoko est mort. Il avait 70 ans. Et il est donc 4h et tout juste 1 minute en temps universel. Ça veut dire que ça y est, à l'instant, une partie des droits de douane imposés par Donald Trump cette semaine entre en vigueur. 10% supplémentaires pour les importations venues de très nombreux pays. À cela s'ajoutent d'autres surtaxes au cas par cas selon les pays qui deviendront elles une réalité dès mercredi prochain. Alors au total, ça fait 20% pour l'Union européenne, 24% pour le Japon, 46% pour le Vietnam, mais seulement, pourrait-on dire, seulement 10% pour le Royaume-Uni qui s'en sort bien, ou en tout cas mieux que ses voisins européens. Dans cette distillerie londonienne où s'est rendue notre correspondante, on essaie de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon reportage d'Emeline Vin.
La distillerie Doghouse exporte une petite partie de ses whiskies, ses gins et ses vodkas vers les États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump, le fondateur Braden Saunders craignait de lourds droits de douane. Alors 10%.
On est soulagé quand on voit les 20% imposés à l'Europe. Mais 10%, ça a beau sembler peu, c'est beaucoup pour les petits producteurs. Ça aura un impact sérieux sur nos opérations là-bas.
Assis sur un tonneau de whisky, le chef d'entreprise se rassure. Londres a une relation particulière avec Washington, en partie grâce au Brexit.
Je suis persuadé qu'on va réussir à négocier pour diminuer ces 10%. Trump veut rester ami avec le Royaume-Uni. Entre le Brexit, la relation historique entre les deux pays, s'il doit conclure un accord avec quelqu'un, le Royaume-Uni paraît évident.
Pour l'instant, Donald Trump n'a pas vraiment donné de signe d'intérêt envers cette relation spéciale, mais le gouvernement promet continuer de travailler à un accord commercial. En cas d'échec, les entreprises britanniques comme Doghouse Distillery devront s'adapter.
On concentrera probablement nos efforts sur d'autres marchés. On a l'Europe juste à côté et il y a plein d'autres marchés intéressants pour nous.
Le secteur pharmaceutique devrait aussi être affecté par les nouveaux droits de douane, ainsi que les voitures britanniques soumises, elles, à un tarif de 25%. Emeline Vin, Londres, RFI.
Mais il y a des pays où l'on ne sabre pas le champagne, la Chine notamment, qui paie la facture la plus salée avec une hausse des droits de douane de 54% quand on additionne toutes les annonces faites depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pékin a d'ailleurs répliqué hier soir en annonçant des droits de douane supplémentaires de 34% sur les exportations américaines. Pour le président des États-Unis, la Chine panique, mais force est de constater que les marchés paniquent aussi. Wall Street chutait de 6% en clôture hier soir, dégringolade également pour les bourses européennes. 4,26% de pertes au CAC 40 à Paris. Pire séance depuis plus de 3 ans. Autre pays où l'on s'attend à des répercussions catastrophiques, le Cambodge, l'un des plus sévèrement frappés par la méthode de Trump. 49% de taxes douanières en plus. C'est toute l'économie du pays qui va en souffrir, nous dit Arnaud Darc. Il est le PDG français du groupe de restauration et d'hôtellerie Talias, installé depuis plus de 20 ans maintenant au Cambodge.
Le pays tout entier pourrait faire face à une récession brutale. Et donc toutes les sociétés, y compris la mienne, ont payé un coût cher. J'anticipe, si rien n'est fait, des fermetures massives d'usines, une explosion du chômage, certainement un reflux des travailleurs urbains vers les campagnes, ce qui, je pense, accentuerait la pression sur le tissu rural déjà fragile. Les investissements directs étrangers seraient freinés et... C'est une partie importante de la stratégie du Cambodge, justement pour relancer sa croissance, qui était au ralenti depuis les années Covid. Et donc la croissance du PIB, prévue à 5%, pratiquement à 6% en 2025, pourrait tomber à zéro. Donc c'est une menace directe pour la stabilité sociale et politique du Cambodge, et donc pour tous les acteurs économiques. Donc c'est très 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 préoccupant.
Des propos recueillis par Bruno Faure dans le cadre d'une émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, consacrée à Trump et au commerce mondial pour donner la parole à des spécialistes et tenter de comprendre ce qu'implique ce véritable séisme douanier. Rendez-vous tout à l'heure pour cette émission à 10h10 en temps universel. Et l'Afrique n'est pas épargnée non plus, la Côte d'Ivoire notamment, qui écope de 21% de droits de douane en plus. C'est loin d'être négligeable quand on sait que jusqu'à présent, le pays exportait chaque année près de 1 milliard de dollars de produits, essentiellement des matières premières agricoles comme le cacao, l'EVA ou la noix de cajou aussi. Mais il disposait pour cela de facilités d'accès au marché américain grâce à l'AGOA, loi promulguée par les États-Unis en 2000 et qui abolissait justement les droits d'importation sur des milliers de produits fabriqués en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, l'avenir de l'AGOA est incertain. Alors forcément, avec cette nouvelle hausse américaine, les responsables ivoiriens de PME et de start-up aussi entre inquiétude et scepticisme. Correspondance à Abidjan de Bintadiagne.
Axel Emmanuel Baou est artisan chocolatier. Sa petite entreprise produit 10 000 tablettes de chocolat chaque mois. Il vend des chocolats en ligne, principalement aux États-Unis. Pour l'instant, cet entrepreneur semble plutôt serein car il cible une classe aisée.
Nous vendons un chocolat militant. Beaucoup de personnes qui achètent le chocolat, ils n'ont que faire de l'argent ou de la taxe. Ils ne regardent pas le prix.
Moulay Tabouré est à la tête d'Anka, une plateforme commerciale qui permet aux entrepreneurs africains de vendre leurs marchandises, de l'artisanat, des vêtements pour l'essentiel dans le monde. Pour le fondateur de cette start-up, les ventes vont forcément diminuer.
21%, c'est très proche de ce que l'Europe avait fait avec 20% de TVA. Une fois que ça a été annoncé, les volumes ont d'abord baissé de 30%. Et en fait, c'est un effet pervers qui, sur les mois et années qui ont suivi, ont conduit à ce que le volume qu'on faisait de vente vers l'Europe à vendeur égal a été divisé par deux sur l'année. Aujourd'hui, nous, on exporte à peu près 5 à 7 millions d'euros de valeur vers les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui, avec cette mesure, risque d'être divisé par deux à terme. Et donc, c'est autant d'argent que les entrepreneurs africains vont perdre. Et probablement derrière à affecter les employés qu'ils ont et tout leur business.
L'annonce de cette nouvelle taxe est encore fraîche et une question reste en suspens, celle de l'application de l'AGOA qui permettait jusque-là à de nombreux produits tels que la noix de cajou ou les fèves de cacao de Côte d'Ivoire d'être vendus aux États-Unis sans frais supplémentaires. Bintadiane Abidjan, RFI.
C'est l'une des frappes russes les plus meurtrières de ces dernières semaines en Ukraine. Au moins 18 morts et une soixantaine de blessés, dont de nombreux enfants. C'était hier en fin de journée à Kryvyi Rih, dans le centre du pays, la ville d'origine du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a réagi, affirmant que cette attaque montrait que la Russie ne voulait pas d'un cessez-le-feu. Il parle d'un missile balistique qui a touché une zone près de bâtiments résidentiels et d'un terrain de jeu. Moscou, de son côté, dit avoir effectué une frappe de précision sur un restaurant où se réunissait, je cite, des commandants de formation et des instructeurs occidentaux. Autre bilan à Gaza, cette fois au moins 30 morts selon la défense civile locale après une nouvelle journée d'opérations israéliennes. Des frappes, mais aussi des opérations terrestres à Gazaville. Tout cela crée une situation extrêmement dangereuse pour les otages encore détenus dans l'enclave, prévient le Hamas. Les frappes israéliennes se sont aussi intensifiées en Syrie et au Liban. Le Liban où deux membres de la branche armée du Hamas ont été tués lors d'un raid sur Saïda dans le sud du pays. RFI, il est 6h08 à Paris, 2h de plus à Saint-Denis de la Réunion, où l'Agence régionale de santé a déclenché hier le plan blanc pour le CHU de l'île de l'océan Indien. Alors ça veut dire que certaines opérations vont pouvoir être déprogrammées et puis le personnel médical qui serait en congé pourra être rappelé pour travailler. L'objectif, c'est de faire face à l'épidémie de chikungunya. Les précisions de Bruce Régent, notre confrère de Réunion la Première.
Le plan blanc, c'est un peu l'hôpital qui se met en tenue de combat face à une situation d'urgence. C'est la mise en place de procédures particulières, connues du personnel hospitalier, car elles sont formellement écrites et parce qu'elles ont été testées. Le principe est donc d'éviter d'être ou de paraître débordé. Cela signifie que l'hôpital s'attend à un fort afflux de patients. C'est en effet ce qui peut être redouté avec cette épidémie de chikungunya, dont on sait que le nombre de malades est probablement, c'est l'ARS qui le dit, 3 à 4 fois plus élevé chaque semaine que le nombre de contaminés officiellement recensés. Sachant que les derniers chiffres, ceux de l'avant-dernière semaine de mars, dépassaient les 6000 personnes testées positives. Et cela alors qu'on est à une dizaine de jours encore du pic théorique de l'épidémie. En plein moment où certains élus commencent à se plaindre de la différence de moyens déployés par rapport au premier assaut du chic en 2006. Ce plan blanc est la réponse des autorités sanitaires, donc, qui n'avaient peut-être pas envie d'être prises en défaut par le ministre des Outre-mer. Manuel Valls est attendu dimanche matin. Bruce Régent, Saint-Denis, Réunion La Première pour RFI.
Et la Martinique, autre île française, annonce elle avoir détecté un cas de chikungunya, un cas justement importé de l'île de la Réunion. Des excuses et de l'argent aux États-Unis. Le comté de Los Angeles se dit prêt à verser 4 milliards de dollars auprès de 7000 victimes de violences sexuelles subies dans des foyers et des centres de détention pour mineurs. C'était entre les années 80 et 2000. L'accord doit encore être approuvé par un conseil supérieur. Une nouvelle étape franchie en Australie dans la guerre contre le tabac. Les cigarettes mentholées interdites désormais. Et puis pour les fabricants, l'obligation d'imprimer des messages de prévention, mais pas seulement sur les paquets, non, mais aussi sur chaque cigarette qui s'y trouve. Alors qu'en pensent les fumeurs? Reportage à Sydney de Grégory Pless.
Du poison à chaque bouffée abîme vos poumons, combien cela vous coûte-t-il? Voilà désormais le genre de message que les fumeurs australiens verront imprimé sur le filtre de chaque cigarette. Une mesure introduite hier, le 1er avril, qui pourrait avoir un impact positif sur Rover, un jeune étudiant.
Peut-être que quand je verrai ce genre de message, ça me poussera à réduire ma consommation de tabac.
Mais à vrai dire, sur la dizaine de personnes interrogées ce matin, il est bien le seul. Ainsi, Max trouve la mesure un peu ridicule et quand on lui demande si cela va l'inciter à réduire sa consommation, voici ce qu'il répond.
Probablement pas. En revanche, je vais sûrement me mettre à collectionner les filtres avec les messages les plus marrants. Donc, je ne pense pas que cette mesure sera efficace. En revanche, l'interdiction des menthols, ça devrait marcher.
L'interdiction des cigarettes mentholées, c'est l'autre mesure phare entrée en vigueur hier. Et de fait, Omar, qui fume des menthols, ne s'imagine pas fumer autre chose.
Je vais sûrement arrêter parce que je n'aime pas le goût des autres cigarettes à part les menthols et qu'ils vont les interdire. Donc c'est une bonne chose pour moi.
Reste à savoir maintenant si ces mesures permettront à l'Australie de réduire encore plus la part des fumeurs dans la société. Actuellement, moins de 12% des Australiens fument du tabac contre plus de 30% en France. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et puis la nouvelle a été confirmée hier soir et elle fait pleurer le monde de la musique. Amadou Bagayoko est mort, emporté par une maladie à l'âge de 70 ans, dont près de 50 d'une histoire d'amour avec Mariam. Ils formeront tous les deux un duo mythique à la ville comme à la scène. Beau dimanche dans l'album Dimanche à Bamako, Sabani, Je pense à toi aussi. La liste de leurs tubes est longue, très longue. On aura l'occasion de vous les faire écouter tout au long de la matinée sur RFI. Ici un extrait d'un autre de leurs morceaux cultes, Mogolou. Mogolou d'Amadou et Mariam, alors qu'Amadou s'est donc éteint à l'âge de 70 ans. On sera toujours ensemble partout où tu iras, a réagi Manu Chao, qui a collaboré avec le duo. Je n'oublierai jamais son amitié pour sa part, écrit Youssou N'Dour sur les réseaux sociaux. Un article retraçant la carrière d'Amadou Bagayoko est à lire sur notre site internet rfi.fr. RFI, on est ensemble pour un gros quart d'heure encore avant le retour de l'actualité africaine. Mais d'abord, comme chaque samedi, sur notre antenne, un tour d'horizon de ce qui a fait la une de l'actualité francophone cette année dans les différentes régions du monde. C'est l'accent des autres, présenté par Olivier Nédernante de la RTBF.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, Radio-Canada, RFI, ici, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et nous allons d'abord revenir sur cette nouvelle annonce du président américain, 20% pour l'Union européenne, mais 31% pour la Suisse. Les taxes douanières annoncées cette semaine par Donald Trump choquent l'économie helvétique, Pierre Anchoffa.
Il faut dire que depuis 2021, les États-Unis ont détrôné l'Allemagne comme premier marché d'exportation. L'horlogerie et les machines-outils sont les secteurs les plus durement touchés.
En Europe comme ailleurs, c'est la mobilisation avec aussi cette réunion de crise en France autour d'Emmanuel Macron jeudi dernier. Nous verrons que les conséquences sont importantes pour la France et en particulier pour la viticulture. Dans ce contexte, Nadim Mubarak, le Premier ministre du Québec, s'est rendu cette semaine en Allemagne. C'était dans le cadre d'une mission économique.
Un des objectifs de cette tournée est de répliquer aux tarifs douaniers de Donald Trump en démontrant que le Québec a d'autres partenaires.
Nous reviendrons aussi sur cette affaire au Burkina Faso. Trois journalistes qui avaient critiqué ou relayé des critiques contre la junte au pouvoir ont été envoyés au front, Nicolas Sûr.
Une semaine après leur arrestation, ils sont réapparus dans une vidéo, crâne rasé et en treillis militaire.
Enfin, en Belgique, une grève générale a paralysé de nombreuses activités en début de semaine. Les syndicats protestent contre plusieurs projets du gouvernement, notamment en matière de pension. Et d'autres actions sont déjà prévues, Jacques Crémers.
Oui, et d'ailleurs, dès ce lundi, une semaine d'actions tournantes perturbera le bon fonctionnement des écoles avant un nouvel appel à la grève générale pour le 29 avril. Les patrons, eux, dénoncent un impact désastreux sur l'économie.
L'annonce de nouveaux tarifs douaniers par le président américain ce mercredi a donc provoqué la stupeur un peu partout dans le monde, et notamment en Suisse. Pierre-Han, les exportations de votre pays vers les États-Unis seront taxées à hauteur de 31%.
Oui, bien plus que les produits de l'Union européenne et leur taux de 20%, la Suisse se retrouve ainsi parmi les pays jugés les plus hostiles en matière commerciale. D'où une forme d'incompréhension jusqu'au sein du gouvernement. Sixième investisseur direct aux États-Unis avec des entreprises qui génèrent 400 000 emplois qualifiés, la Suisse libérale se pensait dans les bons papiers de Washington. Voulant éviter toute escalade, la présidente de la Confédération cherche maintenant le dialogue pour tenter d'infléchir la position de Donald Trump.
Et en attendant, les milieux économiques encaissent le choc.
Si la pharma bénéficie d'exemption, ce n'est pas le cas de l'horlogerie. Patron de la marque Moser à Chafouz, Édouard Mélan a pris des mesures immédiates.
Pour nous qui avons très peu de stock aux États-Unis, on a une filiale qui ça se vend très très vite, donc on n'a pratiquement rien. On essaie de transférer un maximum de stock avant que les taxes soient implémentées. Donc on envoie de Hong Kong, on envoie de headquarters à Chafouz en maximum de choses le plus vite possible.
Et pour la suite, il compte limiter les dégâts en rognant sur ses marges et celles des intermédiaires pour atténuer la hausse du prix de vente. Autre secteur durement touché, celui des machines-outils. Avec l'exemple concret de Chiron, son directeur Samuel Voidance.
31%, c'est finalement un mur pour nous. Nous vendons des machines qui valent 200 000 francs. Et puis là, du jour au lendemain, elles sont passées à 260 000 francs. Donc, grosso modo, nos clients américains vont simplement patienter en attendant qu'il y ait un changement de stratégie.
Avec pour conséquence une baisse des carnets de commandes et de plaider pour bénéficier du chômage partiel et préserver le savoir-faire de sa main-d'œuvre. Benoît Gaillard de l'Union syndicale suisse soutient pleinement ce patron.
Le chômage partiel, c'est un instrument extraordinaire qui nous est envié, qui n'existe pas sous cette forme-là dans la plupart des pays d'Europe. C'est en fait un avantage compétitif de la Suisse. On doit répondre beaucoup plus vite. Pendant la période du Covid, on a su le faire. Et ben, déclarons quelque part une forme d'état d'urgence cette fois-ci. Mettons en œuvre ces choses de manière beaucoup plus rapide.
La politique suisse, une fois la stupeur passée, devra en effet prendre des mesures internes pour affronter cette nouvelle crise économique.
C'est aussi la stupeur, bien sûr, en Belgique comme en France. Les représentants des filières touchées par ces nouveaux droits de douane se sont d'ailleurs retrouvés ce jeudi à l'Élysée à Paris aux côtés du président Macron, parce que les conséquences seront importantes en France, Édouard Marguier, en particulier pour la viticulture.
Un quart de la production part chaque année aux États-Unis. C'est le premier marché à l'export pour les vins français. Près de 4 milliards d'euros en valeur. Nos spiritueux, cognac, armagnac sont exportés à 60% vers les États-Unis. Ils sont donc encore plus dépendants. Ces droits de douane vont coûter jusqu'à 1 milliard d'euros selon une estimation de la Confédération des vignerons d'appellation. Contrairement aux premières taxes Trump de 2019, le champagne ne sera pas épargné et Donald Trump réfléchit toujours à ajouter 200% de surtaxe suite au conflit avec l'Union européenne. Sur l'acier et l'aluminium. Le prix d'une bouteille multipliée par 3, ce sera la fin des exportations dans un contexte déjà difficile. La crise de la consommation en Europe s'accentue. 50 000 hectares de vignes ont déjà été arrachés en France pour baisser la production. Autre secteur agricole touché, le fromage. On envoie du brie, de l'emmental, particulièrement aux États-Unis. Nos AOC hors lait cru a marché à 350 millions d'euros. Et puis, rien à voir, les cosmétiques vont également payer plus pour exporter. 13% de leur production traverse l'Atlantique. Ça représente 3 milliards d'euros.
Édouard Marguier pour ICI. Et dans ce contexte, le Canada était à l'honneur à la foire commerciale d'Hanovre en Allemagne cette semaine. Et le Premier ministre du Québec en a profité, on a dit, pour faire la promotion des initiatives québécoises.
Tout à fait. François Legault s'est rendu sur place accompagné d'une centaine d'acteurs clés du milieu des affaires québécois. Il faut dire que l'Allemagne est le premier partenaire économique du Québec en Europe. La province a exporté pour l'équivalent de plus d'1,5 milliard de biens dans le pays l'an dernier. Et dans le contexte de tensions avec les États-Unis, le Premier ministre voit une opportunité à saisir pour le Québec. Voici François Legault.
D'un côté, on risque peut-être de perdre 100 000 emplois avec les tarifs de M. Trump. Et de l'autre côté, ben, on voudra en créer dans le domaine des minéraux critiques. On est chanceux, là, on a 15-20 minéraux critiques que tout le monde cherche dans le monde, incluant ici les Allemands. Donc, essayons d'accélérer tout ça.
Donc, d'une part, François Legault souhaite voir le Québec percer encore plus le marché allemand, mais il veut aussi que davantage d'entreprises européennes investissent dans la province.
Alors, comment le Québec compte-t-il s'y prendre, Nadie?
Eh bien, devant des gens d'affaires allemands, François Legault promet que les bons projets seront autorisés rapidement au Québec.
Il y a une urgence d'agir. Donc, moi, je veux vraiment travailler là-dessus, là, réduire les délais, réduire la paperasse dans le secteur minier.
Le premier ministre François Legault.
Et comment réagissent les interlocuteurs allemands?
Alors, au-delà des délais, bien des entreprises allemandes se demandent surtout si la volonté canadienne de faire des affaires va perdurer ou si l'intérêt ne sera que passager. Mais dans le contexte actuel, Allemands et Québécois ont un point en commun important, la volonté de se détourner du marché américain.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
C'est la première fois qu'on les voit depuis leur arrestation la semaine dernière à Ouagadougou. Trois journalistes burkinabés sont réapparus en uniforme dans une vidéo, Nicolas. Une vidéo diffusée sur des comptes proches de la junte au pouvoir au Burkina Faso.
Oui, ils avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Guezouma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina, ainsi qu'un reporter qui avait relayé leurs propos, apparaissent en uniforme, dans le désert, dans ce qui semble être un centre d'entraînement. Ils discutent de la nécessité de couvrir la réalité sur le terrain sans qu'il soit possible de déterminer si ces propos sont tenus sous la contrainte ou pas.
Et ce genre de vidéo, Nicolas, ce n'est pas inédit.
En effet, ces réquisitions, comme on appelle l'enrôlement forcé dans les forces de sécurité pour participer sur le front à la lutte anti-djihadiste, grâce à un décret de mobilisation publié en 2023, ciblent régulièrement des voix critiques du régime. L'an dernier, l'ancien ministre Ablassé Ouédraogo, 70 ans, était ainsi réapparu, arme à la main dans une vidéo. Il y a deux ans, c'était Boukari Ouédraogo, président du mouvement L'Appel de Kaya, connu pour être malvoyant. À l'époque, le capitaine Ibé avait reconnu avoir personnellement donné l'ordre de le réquisitionner en déclarant que ceux qui critiquent doivent se contenter de dormir et laisser les autres travailler.
On va se quitter en Belgique cette semaine sur une grève générale. Après plusieurs manifestations contre les projets du gouvernement fédéral, en particulier en matière de pension, le pays a tourné au ralenti lundi dernier, Jacques.
Fermé pour cause de grève, de nombreux commerces mais aussi des services publics étaient inaccessibles. Des piquets ont aussi bloqué l'accès à des zonings industriels, les transports publics ont été perturbés et de nombreux secteurs ont été touchés, directement ou indirectement, par le mot d'ordre du Front commun syndical. Dans la ligne de mire des syndicats, les projets du gouvernement fédéral.
On se bat contre les nouvelles réformes qui vont bientôt arriver et qui risquent de pénaliser beaucoup de travailleurs. Donc, on parle de primes, par exemple, les pensions, tout simplement, qui vont être encore repoussées.
On bloque tout, on bloque tout. On bloque le magasin, on bloque un magasin après l'autre. On bloque tout et on monte le rapport de force, on montre que c'est nous les patrons.
C'est déjà compliqué de concilier la vie privée et la vie professionnelle quand on est dans le commerce parce qu'on bosse le samedi, parce qu'on fait des tarars et qu'avec l'accord du gouvernement, il y a un risque que les magasins soient ouverts tous les dimanches, qu'ils soient ouverts jusque 22h, voire plus tard.
Du côté des patrons, on juge cette action soit prématurée, soit tout simplement désastreuse. C'est ce que dit la directrice générale de la Fédération des entreprises de Belgique, Monica De Jong.
C'est des centaines de millions d'euros qui sont perdus aujourd'hui, parce qu'il y a des entreprises qui sont bloquées par les grévistes, mais il y a aussi des travailleurs qui n'arrivent pas à leur travail ou qui doivent garder leurs enfants puisque les écoles sont fermées. Il y a énormément d'impact. On est déjà dans une situation de crise économique.
Pourtant, les syndicats n'ont pas l'intention de renoncer à leurs actions. Dès lundi, les écoles seront perturbées par une semaine d'actions tournantes, région par région, et un appel à la grève générale est d'ores et déjà lancé pour le 29 avril, à l'approche du 1er mai.
Jacques Crémers pour refermer l'accent des autres. Merci à vous d'avoir été là et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Excellente fin de semaine avec les médias francophones publics.
Et Olivier Nederland de la RTBF, 6h24 à Paris. Le journal consacré à l'actualité africaine, c'est dans 6 minutes. Mais d'abord, votre chronique Vivre ailleurs rencontre ce matin avec Vincent Catherine, responsable de l'emploi pour la Société de développement économique de toute la Colombie-Britannique. C'est une province du Canada, un pays pour lequel il a quitté sa Bretagne natale. C'était il y a 4 ans, d'abord dans le cadre d'un PVT, un permis vacances-travail. Et puis il y est resté finalement. Aujourd'hui, il a 29 ans. Il est content de sa vie d'expatrié. Corinne Manjou l'a rencontré à Paris lors d'un forum de recrutement des francophones pour le Canada.
Alors je suis arrivé au tout départ en janvier 2021 en permis vacances-travail. J'ai commencé par le Québec et ensuite après quelques voyages, je suis arrivé en Colombie-Britannique en septembre 2021. Depuis, je ne l'ai pas quitté.
Qu'est-ce qui vous a fait rester au Canada ?
Les opportunités professionnelles, j'ai envie de dire. J'ai eu l'opportunité assez rapidement, on va dire, pour un nouvel arrivant, de trouver mon travail actuel, de m'intégrer dans la communauté francophone, surtout qu'elle est en situation donc minoritaire en Colombie-Britannique. Donc ces opportunités professionnelles-là. Et ensuite, je vis à Vancouver en ce moment. Et c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est quand même très agréable.
Par rapport à la France, vous voulez dire ?
Oui, par rapport à la France. Alors la France a beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai, si je dois faire un comparatif, là, dans ce cas-là, c'est sur le plan professionnel où les opportunités sont bien plus nombreuses. C'est bien plus simple d'évoluer, de transitionner aussi de poste, là où j'étais un peu peut-être, je me sentais peut-être un peu enfermé en France. Et le Canada m'a un peu ouvert la vue sur les postes auxquels je pouvais prétendre peut-être.
Non seulement on trouve facilement du travail, mais on évolue aussi plus facilement.
C'est ça. Alors, le marché du travail en ce moment, c'est vrai qu'il est un peu grippé, donc trouver du travail est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'il pouvait l'être. Mais oui, évoluer, là, j'ai eu des opportunités de pouvoir faire autre chose que ce que je faisais à mes tout débuts. On vous fait confiance ici si vous faites le travail et la curiosité est récompensée. Si on veut travailler sur un autre projet, si on pose des questions, on va nous donner l'opportunité de peut-être développer cela.
Alors, vous êtes aujourd'hui au Forum Destination Canada. Pourquoi vous venez là ?
On essaye de soutenir les employeurs de notre province dans leur recrutement. Il y a toujours des besoins. Donc c'est davantage pour soutenir ces employeurs, mais c'est également aussi pour informer tous ces candidats, tous ces gens qui viennent aujourd'hui, et peut-être leur parler un peu de la réalité du terrain. Parce que c'est vrai qu'il y a les discours que l'on entend quand on vit à l'extérieur du Canada, et il y a ce qui s'y passe réellement. Et je pense qu'il est important que nous, qui vivons actuellement, et qui avons cette expérience d'expatriés, puissions justement donner le message à ces gens-là pour les préparer au mieux.
Et qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché du travail pour quelqu'un qui cherche un emploi ?
En ce moment, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a eu une politique d'immigration très forte sur les dernières années. Le Canada a vraiment ouvert les vannes pour beaucoup de programmes, pour toutes les provinces. Et on fait face maintenant à un retour de bâton. L'économie a subi une récession. Il y a moins d'emplois du coup disponibles. Et de fait, l'immigration qui a eu lieu les années précédentes commence à créer un goulot d'étranglement sur le marché du travail. On sait que ça va se remettre, il y aura des opportunités, mais il va falloir donner un peu le temps pour cela. Et donc, ce qu'on cherche à dire aujourd'hui, c'est à moins que vous ayez comme un profil très fort ou que vous êtes complètement ouvert à voyager et à tester quelque chose de différent que ce que vous pouviez peut-être faire en France ou ailleurs, ça peut être peut-être un peu compliqué d'arriver directement et de dire « je veux travailler dans le même domaine que ce que je fais aujourd'hui ».
Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont propriétaires de leur entreprise là-bas ?
Beaucoup. C'est énorme et je vais parler peut-être un peu plus de Vancouver parce que c'est là où je travaille, où je vis. Mais c'est presque peut-être plus dur de trouver une personne née et ayant vécu toute sa vie à Vancouver que de trouver au final un étranger, un expatrié de n'importe quel pays qui s'est installé là-bas. C'est extrêmement multiculturel. Des étrangers qui ont créé leur business et qui l'ont développé, oui, il y en a. C'est presque, je pense, la majorité des business qui existent actuellement.
Comment vous voyez votre avenir ?
Certainement pas à Paris dans tous les cas. Moi, je suis de Bretagne à la base, donc c'est sûr que je ne reviendrai pas à Paris. Le cadre de vie que j'ai actuellement me plaît énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas vraiment d'endroit où je me dis oui, ça serait là que j'irais, ça serait là que je construirais ma vie. Donc, encore quelques années, au moins au Canada, ça c'est sûr.
Vincent Catherine, responsable de l'emploi pour la Société de développement économique de toute la Colombie-Britannique. Il était interrogé par Corinne Manjou. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information. Merci à Raphaël Rennes et Pierre Pinto qui étaient à la rédaction en chef. Merci Mickaël Verne à la réalisation ce matin. À suivre le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili, en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. Je vous souhaite une excellente journée.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Les semences améliorées sont devenues pour les agriculteurs l'une des solutions pour s'adapter aux effets du dérèglement climatique. Quels sont ses avantages et ses contraintes ? Nous en parlons avec des acteurs maliens de la chaîne de valeur de ces variétés améliorées.
Un jour au village, avec Penaï Traoré,
tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Dans notre série du mois d'avril sur l'histoire des grands fleuves d'Afrique, halte cette semaine sur les rives du Nil. Ce don des dieux, cette source de vie, ce berceau de civilisation. Et avec l'Amazone, l'un des plus longs du monde. Ces eaux contiennent toute une mémoire que je vous raconte.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.